Radio J, il est 21h.
Radio J, le 6-9, il est la fée radio.
Tous les matins, à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier.
Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin.
C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J.
Radio J.
Radio J, le grand entretien.
Radio J.
Radio J.
Bonjour à tous. Bonjour, monsieur le grand rabbin.
Bonjour.
Nous avons le plaisir, comme nous en avons pris l'habitude d'ailleurs, de vous retrouver avant un de nos grands rendez-vous, les grandes réjouissances de Hanouka. Alors ça nous permet bien sûr de refaire un petit peu le point, de réfléchir à ce qu'est Hanouka, puisque Hanouka est une fête un peu différente de toutes les autres, me semble-t-il. Et je voulais vous demander justement votre vision. Voilà une fête où on extériorise énormément. Alors que nous en connaissons d'autres, même quand ce sont des fêtes majeures, comme celle de Pessah, par exemple. Ou au contraire, les prescriptions conduisent plutôt à intérioriser. Est-ce que Hanouka est une fête pour l'extérieur ?
Oui, c'est une fête où il y a une notion hébraïque qui s'appelle Pirsouma Denissa, la diffusion du miracle, qui existe exclusivement pour cette fête. C'est d'ailleurs le sens des grands allumages à l'extérieur, qui ont lieu, qui ont cours un peu partout. Et c'est aussi l'idée qu'on ne veut pas avoir de la lumière que pour soi, si elle n'est pas partagée. D'ailleurs, c'est très intéressant. La vocation du peuple juif d'être hors la goyim, une lumière pour les nations. Si vous avez la lumière et que vous n'éclairez pas les autres, ça ne sert à rien. Qu'en fait, à un moment, l'idée de lumière, il faut la partager. D'où l'idée de diffusion du miracle. Ce miracle qui concerne tout le monde. Si on fait le pitch de Hanouka, un petit groupe peu nombreux, peu armés, pas forts du tout, l'a emporté sur une grande armée, très forte. Voilà. Ça concerne tout le monde. C'est le mythe de la Coupe de France de football, où le petit poussé, genre club de 5e, 6e division, vient taper un club de 1ère division, et ça fait les grands titres. C'est cette idée que rien n'est inscrit d'avance. Il faut faire confiance, avoir confiance, alors pour nous, en Dieu, et pour ceux qui ne croient pas forcément en Dieu, avoir confiance dans son destin, son engagement, sa motivation. Et cette fête, je trouve qu'elle est particulièrement actuelle. C'est-à-dire le miracle de nos fêtes, d'année après année, elles ne sont pas les mêmes. La situation est différente, l'espérance qu'elles amènent avec elles n'est jamais la même. Et donc, là, j'ai le sentiment que ce Hanouka qui amène de l'espérance et qui est vraiment vital en ce moment, et est utile, serait utile pour l'ensemble de la société, très largement. D'où l'intérêt de diffuser ce miracle, c'est-à-dire d'en parler. Je veux bien que les allumages des lumières soient très importants, mais le fait d'en parler, c'est très important. J'étais hier dans mes anciennes fonctions d'aumônier militaire, donc j'étais à Ballard, où étaient réunis beaucoup de gens pour parler de Hanouka. La moitié n'était pas juif, mais tous sont sortis touchés, bouleversés par quelque chose qui les a nourris dans leurs questions sur le temps d'aujourd'hui. C'est le principe des fêtes juives. C'est pas la commémoration d'un fait passé. C'est comment on peut aujourd'hui vivre avec l'élan qui a été posé par le fait. Et d'ailleurs, c'est une des grandes spécificités de Hanouka, ce n'est pas un texte dans le canon biblique juif. On célèbre une fête de 8 jours, on a des impératifs rituels, le Hallel, la sortie de la Torah, allumage des bougies, une demi-heure, enfin bref, des règles, l'Halakha. Et pourtant, ce qui sert de support à tout cela, ce texte n'est pas dans le canon biblique. Parce que les Rachamim, les sages, ont décidé que le critère double de Miyad Veladorot, il fallait que son texte valable maintenant et pour les siècles des siècles, les générations, ne fonctionnait pas avec ce texte qui était vraiment très daté. La vocation d'Israël, c'est pas de faire des guerres. Dit d'autres, nous les font, il vaut mieux les gagner. Mais c'est pas sa vocation. On peut pas vouloir modéliser cette idée d'un Israël qui aurait oublié ce verset incroyable de la Bible. L'obéchaïl v'lobéchoar qui imberouchi. C'est pas avec le nombre, c'est avec la puissance que vous allez l'emporter, avec mon souffle. Et donc, s'il y a une confrontation, ah oui, il faut la gagner. Mais c'est pas le job d'Israël de se confronter militairement. C'est, son job, c'est de porter le souffle, la parole de Dieu.
Donc on le voit dans la fête de Hanouka, puisque la cérémonie essentielle, en réalité, de Hanouka, bah, comme vous le disiez à l'instant, c'est l'allumage des lumières, l'allumage du chandelier, de la menorah. Or, on a tendance à se dire que malgré tout, le miracle essentiel de la fête, comme vous venez de le dire, c'est la victoire militaire. Effectivement, un tout petit groupe d'hommes qui réussit à abattre la grande puissance du temps. Or, cela est à peine rappelé dans la semaine de fête.
Oui, certaines interprétations expliquent que le premier jour, ce serait cela, célébrer la victoire militaire. Mais moi, j'aime bien une autre interprétation, il y a plusieurs. Mais celle de cette année que je vous livre, elle est complètement différente. Au fond, le premier jour, c'est l'an passé. Vous avez une fiole d'huile qui doit durer un jour. Au lieu de durer un jour, elle dure 8 jours. Mais le premier jour, vous ne savez pas qu'il va y avoir un miracle. Le premier jour, vous allumez les bougies, les lampes, ça brûle, normal. Et voilà, ils se disent, ben, ça va s'éteindre ce soir. Donc le premier jour, il n'y a rien de miraculeux. Pourquoi on allume les bougies le premier jour ? On devrait allumer que pour les 7 jours suivants. Bon, il y a plusieurs interprétations, mais l'une de celles que je voudrais vous livrer cette année, il ne s'est rien passé. Parfait, c'est un miracle. Quoi, que le soleil se lève, qu'on se réveille, qu'on vive, qu'on puisse respirer, que l'équilibre du monde ne soit pas déstabilisé, c'est déjà pas un miracle, ça. Est-ce que, finalement, la grande force de Hanouka, c'est pas de dire, mon Dieu, merci juste de pouvoir exister. Comme on le dit le matin dans la prière. Merci, mon Dieu, de me rendre l'âme sans laquelle je pourrais pas vivre. Tu m'as rendu mon âme avec une immense miséricorde. Je suis persuadé que il y a quelque chose de très fort aujourd'hui dans la capacité qu'on aurait à reconnaître les miracles dans nos vies. Et on serait bien moins amer si on était capable de lister tous les miracles. C'est-à-dire, tout ce qui nous arrive est un miracle. Les rencontres qu'on fait sont des miracles. Les gens qu'on aime, qui sont en bonne santé, c'est un miracle. Cette simplification. Alors, vous aimez, oui, c'est trop facile, tout est miracle. Oui, tout est miracle.
Oui, c'est d'ailleurs un enseignement du Baal Shem Tov.
Bah, j'aime bien le Baal Shem Tov, moi. Tout est miracle, on ne sait pas le voir. Bon, et c'est peut-être ça, le drame de notre société, tellement matérialiste qu'elle croit qu'un miracle, c'est un truc extraordinaire. Moi, je n'ai jamais considéré ça de manière. Je veux bien que le miracle soit quelque chose de plus visible, mais ce n'est pas tant qu'il soit visible, c'est que ce soit quelque chose de visible qui apparaît au moment où il faut. Donc c'est la conjonction d'un événement et d'un temps. Bah, le fait qu'on se lève, que ça fonctionne. Et en fait, la normalité est un miracle. Et si on est capable de reconnaître ça, c'est pas mal parce que c'est une façon, finalement, de rendre grâce à Dieu tous les jours. Et on doit, si on était sur notre logique, d'ailleurs, il faudrait allumer les bougies 365 jours par an parce que c'est tous les jours que nous avons des miracles autour de nous, dans notre vie. Et on ne sait pas les voir. C'est la vraie question de Hanouka, c'est qu'on ne sait pas les voir. Et peut-être que l'idée de Pierre Soumadini, ça, c'est ça. C'est être capable de dévoiler le miracle quotidien, qu'on ne voit plus. Parce que c'était par exemple le problème de la manne dans le désert. Si la manne tombait tous les jours, 40 ans, 40 ans, tous les jours ça tombe. Eh ben non, ça ne tombait pas le Shabbat. Donc il y avait un jour où vous avez l'angoisse de savoir si le dimanche ça allait reprendre ou pas. Vous voyez, quand quelque chose est régulier, et puis à un moment, est-ce que ça va se refaire ? Non, oui. La réalité du monde, elle est qu'on s'habitue à tout, même aux miracles.
Et puis la lumière est croissante pendant tout Hanouka.
Ça aurait pu être différent. C'est parce que nous, on a choisi la vision de Hillel. Et donc, il y avait un autre rabbin qui lui pensait qu'il fallait avoir une lumière décroissante. Allumer 8 jours, 8 bougies le premier jour, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, chaque jour en diminuant, pour que on arrive ensuite à se passer de lumière, comme si on nous désintoxiquait de la lumière, au sens que beaucoup de lumière, et puis après on s'habitue, on n'a plus besoin d'autant de lumière pour vivre. Il se trouve que c'est parce que nous avons une logique croissante qui est un peu comme un tremplin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, et 9, ben on est lancé. Et maintenant, on n'a peut-être plus besoin du support des Lumières pour nous rappeler que oui, tout ce que Dieu nous donne, ce sont des miracles et qui doivent éclairer. Ce que Dieu nous donne doit éclairer nos vies, la vie de celles et ceux qu'on aime, qui sont autour de nous. Et qu'on a donc une responsabilité à avoir autant de grâce de Dieu.
Dans ce moment de Hanouka, à chaque soir, où on allume donc les lumières, on allume les lumières et on le fait justement quand la nuit tombe. Alors évidemment, ça évoque beaucoup de choses. Il y a de très nombreux commentaires qui développent cette vision. Sommes-nous capables aujourd'hui de disperser la nuit ?
Non, moi je suis porté par une vision d'Edmond Flegg, qui, dans une pièce de théâtre magnifique qui s'appelle « Juge du pape », dit « La nuit la plus sombre annonce l'aube la plus lumineuse ». D'autres l'ont dit, Apollinaire, ou la Torah, « Veille et rêve, veille et boker », ou le prophète Isaïe, « Veilleur, où en est la nuit ? La nuit vient et le jour vient. » Oui, la nuit vient, ça c'est sûr, mais le jour vient aussi. Donc, il faut s'engager à disperser la nuit. Mais comment on disperse la nuit ? La lumière, c'est sûr, vous avez raison. Vous avez mis de côté, mais je vous connais pas pour me laisser pouvoir le dire, vous avez mis de côté une tradition formidable de Hanouka, la consommation des beignets. Alors, prenez des notes, c'est important. Les natures, avec beaucoup de sel. Fourré au chocolat, fourré à la confiture de fraises, à la crème anglaise, on s'en met partout, bref.
Ce sont des novations modernes, il faut le dire.
Ah, moi, je pense que déjà, à l'époque, il y avait la crème anglaise dans les beignets. En revanche, les beignets, c'est très ancien, parce que c'est l'idée d'incorporer l'objet du miracle. L'huile va brûler 8 jours, au lieu de brûler 1 jour. L'huile est l'objet du miracle. En incorporant cet objet, on devient nous-mêmes un objet du miracle. C'est-à-dire que j'intègre l'objet du miracle pour moi-même répondre à Dieu plus que je ne le fais. Comme l'huile qui a brûlé plus, moi, j'ai donné plus à Dieu, aux autres, aux hommes autour de moi. Et donc, cette idée, elle est très forte. Elle est dans quelque chose que j'incorpore. Moi, j'aime. Alors, vous allez me dire, oui, j'aime. Et dès que c'est il faut manger, non. Le judaïsme, c'est Emmerich Deutsch qui appelait ça. C'est ce qu'on appelle la liturgie de la table. La liturgie de la table, c'est parce qu'on mange et qu'on est capable de transcender le matériel, il n'y a rien de plus matériel que la nourriture. Par une bénédiction, on la transcende, on fait un objet spirituel. C'est une façon de nous dire que nous, qui sommes matériels, si on accomplit notre vocation, on devient aussi un objet spirituel. L'huile, c'est matériel. Si vous l'utilisez pour allumer des flammes, ça devient un objet spirituel. Le beignet, très matériel. Vous faites une bénédiction. Vous le mangez dans le cadre de la fête. Ou parfois vous vous forcez. Quand vous êtes à la 5e célébration des bouches de Hanouka et qu'on vous dit, mais goûtez celui-là aussi, ce beignet aussi, qu'il faut manger le 15e beignet de la journée, croyez-moi, il faut vous forcer. Il n'empêche que ça devient un engagement à faire de ce que nous sommes, profondément matériel, nous les hommes et les femmes, quelque chose de spirituel, une aspiration spirituelle. Et toute cette fête, c'est ça. Comment la chose la plus matérielle, même la victoire militaire, elle a un but spirituel. Mais ça, vous ne pouvez pas le vivre seul, parce que si c'est spirituel, il faut le vivre en relation avec les autres âmes. Donc, Pirsuma Denisa, publication, publicité, visualisation du miracle, pour que tout le monde puisse bénéficier de cette façon que vous avez de voir les choses. Et d'ailleurs, c'est très joli, la Hadith, on le mettra à la fenêtre. Enfin, on le mettra à la porte. La porte. Au lieu de passage. Si on ne peut pas, on le monte à la fenêtre. Chez nous, à l'intérieur, mais à la fenêtre. Comme ça, on peut le voir de l'extérieur. Si on ne peut pas, si c'est dangereux ou risqué, manicho al shulchanu vedayu. On place la menorah sur notre table, à l'intérieur du foyer. Et dayu, ça suffit. C'est-à-dire que, au moins, diffuse ça dans ton environnement le plus vicinal, dans ton environnement familial. Parce que si chacun le fait dans son environnement familial, finalement, une sorte de grande conjugaison de l'espérance. Mais il manquera toujours à ce moment-là notre obligation, oui, j'entends bien, j'utilise le mot obligation, de parler aussi à l'ensemble de la société. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on aille allumer une bougie à l'Élysée. Je trouve que ça n'a pas fait assez de choc l'an passé. Donc, on va en faire.
Faire plus officiellement encore.
C'était très officiel. Mais c'est d'ailleurs marrant comme des mèmes qui se gaussent du bonheur de dire qu'incroyable, le président des États-Unis allume la bougie de Hanouka à la Maison Blanche. Les mêmes se sont bodies de comment on a osé allumer une bougie de Hanouka à l'Élysée. En fait, qu'est-ce que la laïcité? C'est la liberté de pratique religieuse. Et les asmonéens se battent pour ça. Les asmonéens ont 2200 ans d'avance. Ils se battent pour la liberté de pratique religieuse. Ils veulent pas interdire le culte des idoles aux Grecs. Hein. Ils veulent juste que les Grecs ne les obligent pas à suivre leurs coutumes. Et donc ils disent, nous, notre tradition, c'est ça. Ben, on va vivre notre tradition. Et aujourd'hui, le combat pour le judaïsme, franchement, c'est le même. Moi, je veux pas que l'ensemble des examens s'arrête en France, le Shabbat et jour de fête. Mais je veux que les étudiants juifs puissent respecter le Shabbat et jour de fête, tout en avançant, progressant dans leur cursus universitaire. Et ça, il y a des membres dans l'administration qui comprennent parfaitement cet impératif de faire vivre une laïcité conforme à l'esprit de la loi, et d'autres qui n'ont jamais compris que le mot laïcité n'est pas de l'athéisme, et qui croient que la laïcité, c'est l'éradication de tout fait religieux. Ben ça, c'est un nom très précis. Athéisme. Moi, je pense qu'il faut absolument faire vivre cette laïcité qui fait que bon, à l'Élysée, ça a apparemment fait bondir certains, mais il n'y a pas une grande ville en France, il n'y a pas un allumage des bougies, qui prend un accès universel. En fait, on allume les bougies dans une aspiration juive, évidemment, c'est la fête de Hanouka, mais les maires, les conseils départementaux, les conseils généraux, les députés, les sénateurs, tels et ceux qui sont invités, les préfets, ceux qui sont invités à ces manifestations, le vivent comme un signe d'espérance. On rallume la flamme de quelque chose dans le cœur de chacun et de chacune de ceux qui participent. Franchement, c'est un miracle de société. Il faut savoir le vivre.
D'ailleurs, dans tous ces allumages que l'on voit un petit peu partout sur le territoire, eh bien, les discours qui sont tenus, j'en ai entendu quelques-uns, ces discours, c'est toujours celui de la liberté de penser, la liberté de conscience, c'est un peu cela qu'on célèbre.
Oui, oui. Les asmonéens se battent pour ça, pour avoir leur liberté de pratique. Et ils sont même prêts à prier pour l'empereur, prier pour qui on veut, mais selon les rites juifs. Jamais chercher à nous imposer une façon de servir notre Dieu qui ne serait pas conforme à notre halakha, à nos règles. Et les asmonéens nous donnent une grande leçon de courage parce que d'ici on perd notre identité, qu'est-ce que nous sommes, à quoi ça sert, donc autant combattre. Et c'est ce combat-là pour défendre ce que nous sommes qui nous anime toujours. De ce point de vue d'ailleurs, c'est étrange, parce que de ce point de vue, et pour les générations, est valable. Sauf que c'est la méthode, le combat. Le combat y compris physique, la guerre. C'est pas ça, la méthode juive. C'est une méthode plus, je dirais, plus dans une méthode d'influence, d'explication, convaincre, mais pas par la force. L'aube et chayil v'l'aube et koar, ni avec le nombre, ni avec la force.
Et donc, Hanouka va revenir maintenant, et nous le vivons comme il convient, c'est-à-dire que nous allons tous nous regrouper, nous allons allumer la menorah dans nos maisons, à l'extérieur, elle va être vue de tous. Quel message doit-on dire quand on allume le premier soir, le second soir, ou à quelques moments qu'on commence?
Non, je crois que c'est une fête, il se trouve que c'est comme ça. On pourrait voir autrement, parce qu'il y a des familles où il n'y a pas d'enfants. Mais quand il y a des familles où il y a des enfants, je crois qu'il faut voir le regard émerveillé des enfants. Certes, on a remis des cadeaux qui n'étaient pas forcément le cadre habituel religieux, Hanouka, même si dans le monde ashkenaz, il y a la tradition du Hanouka Geld. On donnait de l'argent à Hanouka, comme si on permettait aux enfants de s'émanciper. Allez, vas-y, utilise, sois comme un grand, utilise ton argent, va t'acheter ce que tu veux. On a mis des cadeaux, c'est pas grave, c'est très bien. Et puis, ça donne cette notion de rendez-vous. On ne prend pas les cadeaux avant d'avoir allumé les bougies, avant d'avoir récité le psaume, avoir resté les prières, avoir chanté, avoir mangé les beignets. Bref, il y a un rituel. Et il faut, je crois, dans une société très sécularisée, revenir au rituel. On n'est pas juste des consommateurs de cadeaux, parce que sinon, vous les donnez quand vous voulez, on n'en parle plus. On attend ce moment, on vit quelque chose de religieux, et ensuite, on a la joie de la découverte des cadeaux. Et moi, j'ai toujours aimé que les enfants participent, parce qu'ils conçoivent très vite les choses. Au fond, j'ai pas le droit d'avoir les cadeaux si je m'acquitte pas de ma part. Et quelle est ma part ? Me rappeler le miracle, chanter ma haute-sour. Ma haute-sour, formidable. Jouer à la toupie. Enfin, faire tout ce qui est rituel et moins rituel, mais qui fait partie de la fête. Et après, il y a la joie. La joie de la découverte des cadeaux, l'attente. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire que ça n'a pas un rapport avec ce qui se passe à l'extérieur dans la société, au moment des fêtes de Noël, où il y a les cadeaux. Cadeaux de Noël. Ok. Enfin, c'est ça, du moment que ça plaît aux enfants, et bah, c'est très bien, ça ne me gêne pas. Mais il y a aussi ce côté universel. Faut une société sera toujours une société meilleure si on arrive à redonner de la confiance, de l'espoir, de la joie aux enfants. Rappelez-vous ce qu'on dit à Kippour. Kippour, pas si loin que ça. On est coincé. On n'arrive plus à dire à Dieu quoi que ce soit, parce qu'on a à dire, parce qu'on n'a pas fait ce qu'on avait promis, parce qu'on, bon. Et on dit à Dieu, mon Dieu, bon, pardonne-nous, pas pour nous. Sur les enfants, chez Bed Rabban, chez Lohatou. Les enfants qui étudient et puis qui n'ont pas fauté, qui veulent juste être heureux, joyeux, qui ont confiance dans la vie. Bah, redonner des sourires aux enfants, c'est, je crois, un impératif formidable pour une société. Et on a la chance de le vivre au Mantranuga. Vivons-le pleinement pour nos enfants et pour tous les enfants extérieurs. Quand j'étais à Rabban de Reims, d'ailleurs, il y avait un truc marrant. Il y avait un club service, le Kiwanis, qui ramassait des jouets pour Noël. Je vais les voir, je leur dis, vous êtes au courant qu'il y a Hanouka chez nous ? Ah ouais ? Ah ouais ? Eh bien, je dis, ce serait bien que vous ayez des cadeaux, et pour les uns, pour les autres, pour tout le monde, d'accord ? Et donc, en fait, ils ont raté des cadeaux qui étaient remis pour toutes les familles, tout le monde. Et j'ai trouvé que ce côté universel de l'espérance des enfants était assez formidable. D'ailleurs, c'était marrant parce que, quand j'étais à Reims, justement, un des jeunes qui est maintenant grand, mais qui est tout petit, pas 7 ans. Après les vacances, et le maître dit, bah, racontez vos vacances, donc chacun raconte ses vacances, les fêtes de Noël, ce qu'il a comme cadeau. Et le petit Tristan, il s'appelait, fait son devoir. Alors moi, je suis juif, je fais Hanouka, je fais pas Noël, ça dure 8 jours, et tous les jours, on a des cadeaux. Bah, la moitié de la classe a voulu se convertir. Donc il a fallu expliquer, c'est marrant parce que pour les enfants, si dans un culte on s'occupe d'eux, on leur donne, alors c'est quelque chose qui est important. Ça m'avait touché, ça m'avait amusé évidemment. Ça m'avait touché de voir à quel point le fait de rendre un sourire à un enfant, y compris par un cadeau, donc quelque chose de très matériel, c'est pratiquement devenu quelque chose de religieux.
Bien, merci pour ces réflexions, monsieur le grand rabbin. Mais vous restez avec nous. Nous allons nous interrompre quelques instants. Et nous vous retrouvons ensuite pour la suite de nos réflexions sur Hanouka.
Radio J.
Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8
et sur radioj.fr.
Radio J.
Bonjour à tous. Nous, pour tous ceux qui nous rejoignent en cours de route, nous sommes avec Chaim Korsia, le grand rabbin de France, et nous entretenons, nous réfléchissons ensemble aux implications de Hanouka, cette fête particulièrement grande, particulièrement belle, dont le grand rabbin vient de nous rappeler toute l'importance, l'union, le message général, et puis la présence des enfants, bien sûr. Je propose à votre réflexion, monsieur le grand rabbin, si vous voulez bien, une halakha, un extrait de la loi juive, dont nous trouvons l'origine dans le Talmud, qui nous dit qui s'interroge sur l'heure de l'allumage et jusqu'à quelle heure on peut allumer. Autrement dit, on sait qu'on doit allumer les flammes de Hanouka chaque soir, on doit les allumer, bougies ou autres, à partir du moment où il fait nuit. Mais si on ne l'a pas fait, on peut les allumer un petit peu plus tard, bien sûr. Alors le Talmud nous donne un point de repère, qui peut sembler un petit peu anachronique. Il nous dit « Ad kalir raglé des tarmoudoy » jusqu'à ce que les pieds, je traduis littéralement, les pieds des tarmoudéens aient disparu. Alors les Talmudéens, on s'en souvient, mais ça nous renvoie à une histoire antique. Ce sont ces gens qui venaient de Talmud et qui étaient les derniers à dormir, puisque c'était ceux qui débarrassaient tous les détritus sur le marché après la clôture. Donc c'était vraiment les tout derniers. Autrement dit, lumière de Hanouka, on peut les allumer jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un dans la rue pour dire les choses rapidement.
Qu'il la voit, qu'il puisse la voir.
Exactement. Mais nous avons des interprétations intéressantes.
Oui.
Talmud, nous dit-on, mais je veux vous laisser la parole.
Oui.
Talmud, nous dit-on, ce sont les lettres de Moredet, la révolte, jusqu'à ce qu'on éteigne la révolte contre le spirituel. Alors comment accueillir cela aujourd'hui ?
Il y a une autre opposition à cette interprétation qui est très intéressante. C'est qu'un rabbin dit finalement, dans le Talmud, après tout, nous sommes là. Donc au moins pour soi, même si on n'est plus dans le Pirsouma d'Enissa, c'est-à-dire un miracle diffusé, au moins pour soi, c'est important de les allumer. Donc si nous sommes là pour allumer, on en est là pour voir. Voir les bougies, parce que vous savez bien qu'on n'a pas le droit d'user des bougies. C'est quelque chose de très important. On n'a pas le droit d'utiliser de la lumière de Hanouka pour éclairer. Il faut qu'il y ait forcément une autre lumière. Ces lumières, on le dit dans le rituel, n'ont pas vocation à être utilisées, elles n'ont vocation qu'à être vues. Réveiller quelque chose en nous. En fait, leur but, c'est ça. Donc ce rabbin dit, après tout, qui est ou qui n'est pas, qu'est-ce que ça fait ? Mais on voit bien que ce qu'on disait tout à l'heure est parfaitement légitime. L'enjeu, c'est de lutter contre ceux qui voudraient nous empêcher juste d'allumer des bougies. Donc, tant qu'il y a cette révolte contre le fait qu'on puisse allumer ou pas des bougies, je dois allumer des bougies. C'est à un moment, au moment où il n'y a plus de révolte, au moment où je peux faire ce que je veux, bon ben, il n'y a plus d'enjeu à se battre pour faire ce qu'on veut, puisqu'on peut faire ce qu'on veut. C'est toujours le paradoxe. C'est parce que je ne peux pas faire ce que je veux que je dois faire ce que je veux, pour manifester que je peux faire ce que je veux. Mais moi, je vais plus loin. Je pense que le principe même, c'est qu'il n'y aurait jamais un moment sans révolte. On le dit d'ailleurs à Pâques. On dit, Bechol Dor Vador, on me dit, Malenu Lo Chalotenu, à chaque génération, quelqu'un se dresse contre nous. Comment il se dresse ? Les uns en interdisant le Shabbat, les autres la cacheroute, les autres la circoncision, les autres l'étude de la Torah. C'est un invariant, ça, l'étude de la Torah. Parce que si on interdit l'étude de la Torah aux Juifs, il n'y a plus de Juifs. Et donc, il y aura toujours une révolte, contre la liberté d'expression. Regardez en France. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a eu l'édit de Nantes ? Il faut bagarrer pour ça. Révocation de l'édit de Nantes. Ça a été chaud. Il y a eu 30 000 morts. Vous n'avez jamais oublié que la Saint-Barthélemy, ça a été quand même quelque chose de très violent, qui a été réglé justement par l'édit de Nantes. Mais n'oublions pas, Saint-Barthélemy, où on a mis une plaque à Paris, à la mémoire des morts de la Saint-Barthélemy, 444 ans après. C'est pour dire qu'il nous a fallu du temps pour intégrer l'idée qu'on avait quand même manqué à notre devoir de liberté de pratique religieuse, qui est pour moi consubstantiel. Non pas la loi de laïcité 1905, consubstantiel à ce qu'est la France. Le génie français pour moi, qui est un invariant de l'histoire, il est laïque. On peut monter, descendre, ça nous plaît pas, ça nous plaît. Il est dans la liberté de pratique religieuse. Et j'y vois une source marrante. C'est qu'en 496, quand Clovis se fait baptiser, uniquement pour amalgamer toutes les tribus, il a un royaume qui est fait de briques et de brocs, et plutôt d'allemands que de français. Donc il faut amalgamer tout ça. Et donc, il le fait avec la foi chrétienne. Mais ça l'embête de se faire baptiser par le pape. Parce que le pape, il a un pouvoir temporel très puissant. Et c'est son évêque. L'évêque de Reims. Ça va, c'est bien, parce que j'étais rabbin de Reims. L'évêque de Reims, Rémi, qui lui donne la solution. Il dit, mais dans la nuit, l'Esprit Saint est venu et m'a amené le Saint-Crème. Ce qui va servir d'onction. Et comme dans le top 50 catholique, chrétien, si vous voulez, le Saint-Crème est au-dessus, le Saint-Esprit est au-dessus du pape, puisqu'on a le Saint-Esprit qui nous a amené le Saint-Crème, on n'a pas besoin du pape, il n'invite pas le pape. Donc, en fait, il utilise la transcendance religieuse sans passer sous les fourches codines du pouvoir temporel religieux. Voilà comment est Clovis. Pour moi, ça ressemble au principe est dictée par la laïcité. Donc, notre ethos français, c'est on respecte ça. Mais on voit bien qu'il y a des combats permanents pour défendre ça. Dans le judaïsme, c'est la même chose. Il y aura toujours une révolte contre la possibilité pour les juifs de vivre. Et regardez quelque chose, je voulais débattre avec vous, que vous percevrez la finesse. Quelle grande différence il y a entre Hanouka et Pourim? C'est en dehors d'Israël. C'est en Perse, dans les 127 provinces du royaume d'Assuérus. Hanouka, c'est la libération du temple. On est en plein Jérusalem, c'est Israël. Celle de l'extérieur, Pourim, elle est dans les textes. On a le texte de la Megillah qu'on a l'obligation de lire. Celle qui est en Israël, il n'y a pas le texte. Le livre des Maccabées 1 et Maccabées 2 n'est pas dans notre canon biblique. Il y a des différences sur le Hallel. On le sait, entre une fête qui est en Terre Sainte et une fête qui n'est pas en Terre Sainte. Donc en fait, il y a des différences et en réalité une complémentarité. L'un, c'était une agression contre la spiritualité d'Israël, Hanouka, mais les Grecs n'en voulaient pas au physique, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas tuer les Juifs. Pourim, Aman veut tuer tous les Juifs, tous, hommes, femmes, enfants. Donc, on voit, d'une manière ou d'une autre, d'où que vienne l'attaque, où qu'elle se trouve, il y a toujours cette volonté d'annihiler quelque chose du peuple juif. Soit en éliminant les juifs, comme à Pourim, soit en éliminant leur foi, soit en les coupant de leur terre, soit en les coupant de leurs racines spirituelles. De toute manière, on ne peut pas laisser des gens qui ont l'outrecuidance de dire que le matériel peut devenir du spirituel, venir perturber l'ordonnancement du monde qui dit non. Et cette révolte contre cette obsession des juifs de garder leur tradition, de garder ce lien entre le matériel et le spirituel, cette révolte, elle sera permanente.
Et donc, nous avons toujours la charge de la repousser. C'est véritablement un don de soi, égal à celui des Asmonéens que vous décrivez ici.
Oui, mais c'est pour ça que moi, je pense que cette fête n'est pas uniquement une fête qui commémore, qui nous dit, il y a 2224 ans, ça s'est passé comme ça. C'est une fête qui nous dit, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais toi pour diffuser la Torah? Qu'est-ce que tu fais d'abord pour la vivre? Comment tu intègres les objets du miracle que Dieu te donne? Tout ce que tu manges, tout ce que tu bois, tout ce que tu vis, tout ce que tu reçois. Comment tu l'intègres pour te faire devenir toi-même un objet de miracle? Un outil de Dieu pour affermir la foi dans ton cœur, dans le cœur des autres, celles et ceux qui sont autour de toi. Comment ta vie devient un modèle, un exemple? Qu'est-ce que tu fais? Et je pense que si on est capable d'entendre cette voix qui nous dit « qu'est-ce que tu fais toi ?», alors on a vraiment vécu la vie. Bon, si en plus vous avez les beignets, les jouets, les cadeaux, c'est parfait. Mais le principe, c'est ça.
Il y a un autre aspect de Hanouka.
Vous avez remarqué, c'est vrai, un truc. On donne les cadeaux aux enfants tous les jours, nous les adultes, si on a un cadeau, c'est bien.
En effet.
Ouais. On aimerait bien revenir enfant. Voilà.
Justement, on va encore parler un petit peu d'eux, vous en avez déjà parlé, mais... On ne peut pas oublier, bien sûr, que Hanouka, c'est aussi chinuch.
Ouais. Très vrai.
Éducation, donc.
C'est-à-dire que pour lutter contre la, disons avec des mots contemporains, la déjudaïsation, soit vous luttez comme les Asmonéens, c'est-à-dire que vous vous battez pour enlever les idoles, les temples, pour maintenir le culte, pour allumer les flammes du candélabre, voilà. Soit vous apprenez à plein de jeunes à vivre tout ça. Et donc vous augmentez la masse de celles et ceux qui peuvent porter cette Torah. Donc en fait, il y a toujours une position défensive, mais le plus intelligent, c'est d'avoir une position offensive, c'est-à-dire qui va anticiper et qui va former, apprendre, donner aux jeunes cette responsabilité, partager cette responsabilité avec les jeunes. J'ai jamais vraiment réussi à savoir où était ma position sur quelque chose qui me semble très important pourtant. Ce sont les offices pour jeunes. Vous voyez ? Quand on fait des offices pour jeunes, c'est formidable. Quel est le but ? Que ça aille plus vite, bah franchement, je vois bien avec mes enfants, moi quand je pars à des horaires quand je pars très tôt à l'office, les jeunes ils aimeraient bien partir, enfin démarrer un office à 10h, 10h30, bien. Mais enfin si vous démarrez un office à 10h30 et que vous faites tous les psaumes et tous les trucs et tous les machins à 2 à l'heure, et que vous finissez à 3h30, c'est pas le fun. Donc c'est pas le fun pour la famille surtout. Et puis il y a un autre problème d'ailleurs de, avec ces offices qui durent tard, c'est notamment pas tant l'office d'ailleurs que le kiddouche après, où les gens parfois ne savent pas se conduire. Vraiment. Y compris en termes de consommation d'alcool. Et ça donne des histoires parfois étonnantes dans les communautés. Et ça donne des retours à la maison, d'abord tardifs, avec l'incapacité de tenir un repas. Et j'étais alerté sur... C'est étrange parce que plusieurs synagogues me disaient « Mais comment faire ?» Je leur ai dit « Mais interdisez l'alcool !»« Ah, ben, pas possible !» Bien sûr que c'est possible. Et donc, j'aime bien l'idée de dire « Il faut un office des jeunes. » Mais en même temps, il manque ce moment où les parents bénissent les enfants, où il y a cette transmission des chants et des traditions synagogales d'une génération à l'autre. Pourquoi ? D'où vous savez-vous ? Et les psaumes et je sais pas moi. D'où moi je sais le commentaire homilétique des 10 commandements par Sadia Gaon qui a à Rosh Hashanah, à Shavuot. D'où je sais ça ? Personne ne s'est assis. Je vais t'apprendre le commentaire homilétique de Sadia Gaon. J'étais à la synagogue quand j'étais petit. Et c'est vrai que c'était long, c'était même un peu gavant, mais je reste avec inscrit dans ma tête le quatrième commandement apparaissait en lettres flamboyantes dans les hauteurs célestes, alors que la voix de l'Éternel exhortait le peuple et l'environnait en ces termes. Ô enfant d'Israël, respecte le Shabbat, aime le Shabbat. Voilà. Voilà. Je reste avec ce que j'ai entendu. Si on aime un chant, à un moment, il y a des chants qui nous touchent, plus que d'autres. Je ne vais pas vous chanter... Je sais pas moi, le début de Shabbat, l'entrée de Shabbat, quelque chose, vous voyez, qui vous lève. Bien sûr que je comprends qu'il faille aller vite. Il faut aussi garantir cette transmission. Je pense que, oui, la transmission, c'est le cœur de ce qu'est Hanouka. Mais pas que pendant 8 jours. Les beignets, vous les mangez que 8 jours. Les bougies, vous les allumez que 8 jours. Mais Hanouka doit nous réveiller sur notre impératif ardent à transmettre et à construire des outils de transmission. Y compris en étant capable, dans les offices, par exemple, je prends cet exemple, parce que je suis venu là-dessus et puis qu'on m'a alerté récemment sur ces questions, que c'est formidable d'avoir des offices qui vont plus vite pour les jeunes, comme ça c'est plus fun pour eux, j'entends, je le comprends. Mais à un moment, il faut pouvoir garantir aussi cette transmission, et donc qu'il y ait des points de rencontre. On peut imaginer, par exemple, que les jeunes foncent, démarrent plus tard, foncent, se tape pas la vente des mitzvot qui est insupportable, se tape pas les 25 moussifim qu'il faut pour faire entrer l'argent. Et après la paracha, on se retrouve tous pour commentaire du rabbin, les bénédictions d'usage et Moussa. Vous voyez, c'est déjà pas mal. Mais c'est un impératif à la réflexion sur la transmission, vous avez raison. Parce que c'est le nom de la fête.
Alors, que aujourd'hui, Hanouka arrive, que...
Vous avez remarqué que je vous ai récité le commentaire homélétique de Sadia Gaon en français. Il était récité et en arabe, au Kalmat, et en arabe, et en français. Enfin, qu'est-ce qu'un Chaim Nissenbaum peut connaître au Kalmat en arabe ?
Non, honnêtement, je ne prétendrai pas à connaître. Ah, voilà. Mais je regrette de ne pas l'avoir entendu en vous en entendant parler. Ah,
c'est tellement merveilleux. Marrant.
Alors maintenant que c'est très concrètement Hanouka en vérité et que nous le célébrons, alors pour les quelques minutes qui nous restent, que proposez-vous, que suggérez-vous à nos auditeurs pour justement assurer cette transmission et faire que, on va le dire, que l'année prochaine Hanouka soit encore plus lumineux pour tout le monde?
C'est une très bonne suggestion en fait. Moi je pense que chaque année on doit être capable d'ajouter quelque chose, non pas une bougie de plus, allez, 9 bougies, et non pas 2 bénis de plus cette année, non. Sur le domaine du chinour que vous avez soulevé à très juste titre, parce que chinour, entendez-le, chinour, Hanouka, c'est la même racine. Par exemple, de décider que on va étudier, je sais pas moi, une Mishnah, je sais pas loin, une Mishnah par semaine, avec ses enfants. Ceux qui savent, c'est formidable, ceux qui savent pas, faisons l'effort ensemble. De prendre ne serait-ce que les maximes des pères. Oui, c'est un traité de Mishnah plutôt simple, compréhensif, simple, accessible dans ce traité d'éthique qui est formidable.
Et d'excellentes traductions existent aujourd'hui.
Formidable. Et permettez-moi de distinguer surtout celle que j'ai toujours profondément aimée, celle de Annie-Claude Guggenheim, qui est la maman de l'actuel Grand Rabbin de Paris, et qui a fait une traduction merveilleuse avec des commentaires. Donc on peut... Voilà, je prends l'exemple de Maxime Hébert. Mais vous voyez, c'est un temps. Se garder un temps d'études avec ses enfants. Imaginez. Toute la famille se réunit, on n'est plus dans la course permanente. On se bloque un truc, ça peut être après le repas du vendredi soir, ça peut être avant le repas du vendredi soir, je ne sais pas. Mais un moment. Et on étudie un truc. Ou même au milieu du repas, on fait un commentaire. Voilà. Façon de transmettre. Alors le commentaire, vous allez dire, comment je fais? Je ne connais pas le commentaire. Prends un livre. Il y a une édition là, qui vient de sortir de Chumash, magnifique. Avec des commentaires, d'ailleurs, ça vous plaira, du Rabbi de Lubavitch. Je crois que c'est, les commentaires, c'est le Chumash de M. Pamen Chitrit. C'est un Chumash bleu, voilà, ça je peux vous dire, bleu avec une couverture rouge, merveilleux.
Ah, pour tout vous dire, je vais même participer à sa rédaction.
Ah, alors, formidable.
C'est un excellent
Chumash. Merveilleux.
Vraiment.
Avec quelque chose d'unique, je le précise pour vos auditeurs, je connais même pas son nom, mais je l'ai regardé, j'ai étudié, je trouvais des choses formidables, d'abord des très beaux commentaires, et deuxièmement, une traduction avec en gras la traduction réelle du texte de la Torah, et en fin, des commentaires pour rendre intelligible la traduction. Donc, ça ne triche pas à vous donner un long texte, comme on faisait avant, les thèmes et les versions romains, latins. Non, non, vraiment la traduction de traduction, mais intégrer dedans quelque chose qui rend plus intelligible le texte, avec qui, de qui on parle, etc. Très bien, et les commentaires en bas. Plus Rashi, bien sûr. Mais tout cela, vous voyez, il y a de quoi puiser pour pouvoir partager. Je ne dis pas, oui, je n'ai pas dit puiser pour donner. Vous vous dire, mais qui suis moi pour donner un enseignement? J'en sais pas plus que les autres. Mais va chercher, lis ce que tu as étudié, partage-le, et tu verras comment tes enfants, ton épouse, ton mari, bref, va à un moment donné agrandir ce commentaire, l'éclairer. Peut-être l'illustrer par une anecdote, par une comparaison qui va amener de la compréhension et des textes et du monde. Et je pense que c'est ça. À Hanouka, on peut décider de lancer quelque chose de l'ordre de l'éducation collective dans une famille.
Monsieur le grand rabbin, notre émission vient déjà à son terme. C'est toujours trop court. Merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous.
Et nous nous retrouverons, je crois.
Merci à vous d'être venu.
Merci. Merci de m'accueillir. Mais le prochain rendez-vous est déjà pris.
Bravo pour ce travail sur ce roumage. Je ne sais pas que vous avez pris part, mais c'est vraiment assez formidable. Et permettez-moi de dire, parce que je pense à ça, en parlant de Rashi, finalement, le rabbi de Lubavitch qui a inspiré ses commentaires dans ses sirotes, il a une âme française. Je ne dis pas ça parce que Rashi était français, mais il a étudié à la Sorbonne.
Absolument.
Et il a un côté, dans ses commentaires, celui qui ont été choisis, si c'est vous, ça me rassure, parce que maintenant je comprends pourquoi, je trouvais une empathie avec ses commentaires, et une forme d'universalisme. Je crois que la force du judaïsme, et en particulier du judaïsme français, c'est de porter ce particularisme, et d'être, malgré tout, ou grâce à ça, encore plus universel. Et c'est la fête de Hanouka. C'est une fête qui nous fait conserver notre particularisme. C'est nous qui avons reçu cette obligation d'allumer des bougies. Et pourtant, on partage de manière la plus universelle qui soit.
Merci, monsieur le grand rabbin. Permettez-moi de vous souhaiter une excellente fête de Hanouka, ainsi qu'à tous nos auditeurs.
Et bonne dégustation des beignets.
Merci à vous. Au revoir.
Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8.
بايدي بستنى يا حلوين يا حبيبي يا عادي لو أغمض وأفتح لو أغمض وأفتح ولاقيكم جايين جايين يا حبيبي جايين جايين
Vous écoutez Radio J.
crains.